où l'on doit distinguer non seulement la théologie mystique de la théologie biblique, mais encore ces deux dernières de l'exégèse. Oui, tout à fait d'accord. C'est exactement comme saint Augustin, n'est-ce pas? Quand on fait l'histoire de la théologie, c'est-à-dire de la doctrina sacra, on s'aperçoit que chez saint Augustin, je prends saint Augustin puisque c'est le grand-père de notre théologie occidentale, chez saint Augustin, on peut dire que d'une fait, rien n'est distingué. Tout est à l'état de disposition. Et donc, on trouve une réflexion à la fois pieuse, une réflexion théologique, une réflexion mystique. C'est extrêmement varié, n'est-ce pas, quand vous regardez les œuvres de saint Augustin. Parce que nous sommes au point de départ, si vous voulez, de ce que représente cet effort de la théologie. Ce ne sera que progressivement que la théologie va distinguer certains aspects. Je crois qu'on pourrait faire une étude analogue, vous voyez, en comprenant bien, analogue, donc totalement différente, mais avec quelque chose de semblable, par rapport au point de départ de la philosophie. Quand vous êtes au point de départ de la philosophie, mais les distinctions ne sont pas encore faites. Il y a une recherche sur l'univers, il y a une recherche sur l'homme dans l'univers, il y a une recherche sur les vivants, et puis progressivement, et au fond, quel est le premier qui a organisé la philosophie? Ça, historiquement, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, c'est Aristote, qui est le premier à organiser, je dis bien organiser, le savoir philosophique. C'est le premier qui donne cet aspect critique des diverses dimensions. Je crois qu'au point de vue théologique, il y a quelque chose d'analogue par rapport à saint Thomas. Saint Thomas est le premier qui donne une théologie scientifique, ça c'est sûr. Et à ce point de vue-là, il y a un grand progrès de précision. Je ne dis pas de profondeur, ça Dieu seul peut sonder les reins et les cœurs, mais de précision avec saint Augustin. On peut aimer mieux saint Augustin parce que c'est plus moelleux que saint Thomas qui est plus les os, n'est-ce pas, et les squelettes de temps en temps. Alors il faut avoir un très grand souffle de l'Esprit Saint pour que ces squelettes recommencent à vivre et que ça donne quelque chose de merveilleux. Mais autrement, c'est quelque chose évidemment de beaucoup plus précis. Mais saint Thomas, c'est très vrai par rapport à ses commentaires scripturaires, qui peuvent nous décevoir quelquefois. Parce que on aimerait que saint Thomas donne un tout petit peu plus de son expérience par rapport à ce qu'il a vécu. Il ne le fait pas. La théologie mystique va prendre tout son développement, je dirais, à partir de saint Jean de la Croix. Je ne dis pas que la théologie mystique, c'est saint Jean de la Croix, mais la théologie mystique, avec les écrits de saint Jean de la Croix, mais il y a une matière nécessaire qu'on doit donner. Pas seulement saint Jean de la Croix, mais Maître Eckhart, par exemple, aussi. Chardon. Et puis alors après, vous avez toute la grande éclosion de diverses écoles spirituelles où on sent très bien qu'il y a une nécessité d'une théologie mystique qui doit organiser ces choses-là. Alors que ça n'existe pas pour saint Thomas avant. Il y a saint Bernard, c'est bien évident. Saint Bernard est un grand mystique. Mais pas de la même façon, vous voyez, que saint Jean de la Croix. Il y a une éclosion dans saint Jean de la Croix qui est très unique. Et qui, par le fait même, va réclamer comme un développement plus profond d'une théologie mystique. Vous voyez, je crois qu'il y a quelque chose qui serait important à bien voir, c'est comment progressivement la théologie prend conscience de ce qu'elle est. Alors il y a tout un grand apport aujourd'hui de l'exégèse qui n'existait pas du temps de saint Thomas. Ça c'est sûr. Le sens littéral de saint Thomas, vous savez bien comme il est difficile à préciser, hein, nous l'avons vu. Comme il est difficile à préciser le sens littéral de saint Thomas, ce n'est pas du tout le sens littéral des exégètes d'aujourd'hui. Et je crois que là, il faut quand même bien voir la différence. Parce que le sens littéral des exégètes n'est pas celui que donne saint Thomas. Saint Thomas va beaucoup plus loin comme sens littéral. Ce qui prend l'auteur principal, c'est l'Esprit Saint. Et le sens littéral, c'est celui de l'intention première de l'Esprit Saint, donc de l'auteur principal. Donc ça va beaucoup plus loin. Et c'est pour ça que le sens littéral de saint Thomas implique une théologie mystique. Au sens fort, vous voyez, ça implique une vraie théologie mystique. Saint Thomas ne l'a pas beaucoup développé, ça c'est sûr. Et pour nous, nous sommes obligés, étant donné que l'exégèse s'est beaucoup développée et que l'exégèse a la tentation, à cause du positivisme qui s'est introduit dans l'exégèse, ça il faut bien le voir, les exégètes purs comme exégètes, il n'y en a pas beaucoup. Qui vraiment respecte que l'exégèse est au service de la théologie. C'est toujours ce que m'a dit le père Feuillet. Le père Spic, lui aussi, est dans la même ligne, mais le père Feuillet avec peut-être encore plus de précision. Le père Feuillet dit très nettement, il me l'a dit à moi personnellement, l'exégète est au service du théologien. Et donc l'exégèse ne fait pas partie de la théologie au sens rigoureux. C'est une propédeutique. Alors, il faut que l'exégète comprenne qu'il doit se développer en théologie pour donner une théologie biblique, ce qu'on appelle la théologie biblique, c'est-à-dire, au fond, la théologie du devenir de la révélation. Et je crois qu'on devrait l'appeler comme ça, la théologie du devenir de la révélation. Ce que nous essayons de faire ensemble, vous voyez ? Alors ça devrait être complété par un exégète qui devrait être là, toujours, n'est-ce pas, dire « attention, l'exégète dit ça ». Très bien, alors on tient compte de ces conclusions, c'est intéressant. Mais c'est le devenir de la révélation qu'on doit étudier en théologie biblique. Essayer de voir comment progressivement Dieu nous a donné l'alliance plénière. Et on est devant des choses qui se font progressivement. Alors, l'exégèse contemporaine exige cela. Distinction entre théologie du devenir de la révélation et théologie mystique, et puis exégèse et théologie scientifique. Alors, il faudrait se poser la question, est-ce que l'exégèse contemporaine comme service de la théologie va-t-elle modifier certaines choses de saint Thomas, de la théologie scientifique? C'est une très belle question, ça. C'est intéressant de poser la question. Vous voyez exactement que vous pourriez la poser la question, est-ce que la physique contemporaine modifie quelque chose de la philosophie de la nature d'Aristote? C'est une très grave question. Posez ça, monsieur Agassiz. Est-ce que ça modifie certaines choses de la philosophie de la nature? Ou est-ce qu'au contraire, ça ne modifie pas, mais ça purifie, ça exige le philosophe de la nature d'être plus philosophe de la nature? Ce que je croirais. Il y a une purification. L'exégèse peut donner une purification. C'est un service, l'exégèse, pour essayer de mieux comprendre la parole de Dieu. Alors, voyez, la très grosse difficulté, c'est que saint Thomas se base, lui, sur la Vulgate. Il ne faut pas l'oublier. C'est la Vulgate, le texte majeur de saint Thomas. Aujourd'hui, nous nous basons sur le texte hébreu, massorétique. Et ce n'est pas toujours, il y a une petite différence entre les deux. Et c'est pour ça que je vous ai dit, c'est intéressant de regarder ce que la pierre qui vire est en train de faire, parce que ça nous fait mieux comprendre ce hiatus qui existe entre les textes des pères qui s'appuient sur les Septante pour les pères grecs et la Vulgate pour les pères latins. Et l'Église a considéré que c'était des textes révélés. Et puis alors, la traduction moderne qui se prend directement sur l'hébreu. Alors, ce qu'il faudrait, c'est de comprendre ce que ce retour à l'hébreu peut apporter de nouveau comme complémentaire. Mais pas d'opposition. Puisque la tradition est du côté de la Vulgate. Et la tradition est du côté des Septante. Mais, cependant, le retour au texte hébreu peut apporter quelque chose de nouveau. Oui, peut apporter des précisions qu'on n'aurait pas vues avec suffisamment de netteté avec les Vulgates et les Septante. Et c'est là où je crois une exégèse moderne bien faite devrait aider le professeur de dogme à mieux comprendre certaines choses. Si on peut, une fois, je le ferai à propos des processions divines. Vous savez, le livre de Miguel Garrigues là-dessus, c'est intéressant à voir à propos du filioque. Il y aurait quelque chose que je... Un jour, il faudra le reprendre ça, parce que je... C'est très intéressant à voir, parce que c'est là, alors on est en frontière, vous voyez, de l'exégèse, de ce que représente le point de vue d'une tradition, et puis le retour au texte hébraïque. Je n'entre pas plus. Hein. Nous allons continuer, si vous voulez, à voir ensemble ce grand mystère de la vocation d'Abraham, c'est-à-dire qu'on commence, je crois. Je vous avais dit que donc, les 11 premiers chapitres de la Genèse avaient un caractère très nettement préhistorique. C'est comme cela, de fait, que l'Église nous demande de le considérer. Donc, un langage symbolique et mythique, en comprenant bien ce que ça veut dire. Mythique, ça ne veut pas dire purement imaginaire, mais mythique, ça veut dire préhistorique. Donc un langage préhistorique. Et la commission biblique nous a dit que nous devions regarder que dans les 11 premiers chapitres de la Genèse étaient donnés des faits qui avaient existé. C'est normal, hein? Si c'est de foi, le jugement d'existence existe toujours. L'exégète ne peut pas modifier la foi. Et la foi implique un jugement d'existence, c'est Dieu qui me parle. C'est la différence entre le symbole poétique et le symbole divin. Un symbole poétique n'implique pas du tout de jugement d'existence, tandis qu'un symbole divin implique un jugement d'existence. Je donne l'exemple, si vous voulez, pour que vous compreniez bien. Quand il est dit que Dieu façonna le corps de l'homme, ben c'est évident, c'est très symbolique. Vous avez vu Dieu façonner le corps de l'homme, puis après le mettre dans un four. Hein? La terre rouge, Adam, alors on voit très bien. C'est symbolique. Bon, si c'est symbolique, je pourrais dire c'est poétique. Oui, c'est poétique. C'est très vrai. Mais c'est poétique, divinement poétique. Et quand je dis symbole divin, puisque c'est inspiré, c'est un symbole divin. Est impliqué dedans un jugement d'existence. Adam a existé. Pour le croyant, Adam a existé. Je n'ai pas le droit de dire que c'est un pur symbole pour montrer l'origine de l'humanité. Je dis, il a existé un être humain chef de file. Voilà ce que ça veut dire au point de vue de la foi. Il a existé un être humain chef de file. Et je dois dire que Adam n'a de signification pour le croyant, que pour le croyant. Pour le philosophe qui lit la Genèse, Adam a une signification symbolique, mythique. Pour le philosophe, hein. C'est ce que fait Ricoeur hein, quand il dit que c'est un mythe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour le philosophe? Signification symbolique, poétique. Il faut bien qu'il y ait eu un commencement. Il faut bien. Ça fait partie de toutes les notions. Tu vois un œuf, la poule, l'œuf, la poule, alors qu'est-ce qui est avant hein là, vous voyez bien, vous comptez, alors qu'est-ce qui est avant? Bon, alors, il faut bien qu'il y ait eu un homme. Dans un langage philosophique, c'est un langage symbolique, qui ne porte pas de jugement d'existence. Comment l'homme est apparu, je n'en sais rien, c'est poétique. Pour le croyant, il a existé Adam. Celui qui était responsable en face de Dieu de tout ce qui viendrait après lui. Autrement dit, la bénédiction de Dieu sur Adam prend une très grande importance. Nous verrons ça. On va s'arrêter un moment sur la bénédiction. Hein. C'est très très important, la bénédiction. Il y a un grand schéma de bénédiction qui sera un travail de théologie biblique qui serait extrêmement intéressant à voir. Voir la bénédiction de Dieu jusqu'à Jésus. Parce que Dieu bénit, Jésus bénit. Alors c'est intéressant, nous reviendrons là-dessus tout à l'heure. Mais la bénédiction de Dieu à Abraham est très importante, puisque c'est tout le mystère d'Abraham, de dire à Adam, est très importante, puisque c'est tout le mystère d'Adam comme chef de toute l'humanité. Pour le croyant, Adam est chef de toute l'humanité, donc responsable de toute l'humanité. C'est la seule manière de comprendre, au point de vue de la foi, ce qu'est Adam. Et je comprends très bien que pour le philosophe ou pour le savant, ça ne veut rien dire. C'est vrai que ça ne veut rien dire, puisque je ne sais pas qui est Adam. La foi, ça vient d'en haut, vous comprenez ça, cet immense avantage, ça vient d'en haut. Tandis que la philosophie et la science, ça vient d'en bas, que voulez-vous, il faut bien. C'est à base d'expérience. Je n'ai pas d'expérience avec Adam, même si vous y avez rêvé. C'est un rêve, c'est une chose mythique, mais elle n'a aucune expérience. Et les bons savants le disent. Adam ne signifie rien pour le savant. Parce que vous ne trouverez jamais un crâne sur lequel est inscrit Adam. Jamais. Donc ça ne signifie rien. C'est un symbole, c'est tout. C'est très très important. Mais dès que vous dialoguez avec un savant et que vous êtes un croyant, il faut tout de suite comprendre que nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Il y a deux longueurs d'onde différentes. Alors ce n'est pas la peine de discuter indéfiniment sur des mots quand ces mots ont une signification différente. Hein. Pour le croyant et pour le savant. C'est pour ça qu'on peut dire que Adam n'a de signification que pour le croyant. Je crois qu'on peut dire la même chose, voyez, pour Noé. Ça n'a de signification que pour le croyant. Le déluge, c'est préhistorique. Alors, philosophiquement, qu'est-ce que ça veut dire le déluge? Ça veut dire peut-être qu'à un moment donné, il y a une catastrophe particulière, et comme à ce moment l'humanité n'était pas très grande, eh bien évidemment, quand on est sur les bords de la Saône et qu'on voit que ça, il y a un déluge. C'est bien évident, il y a un déluge. Il y a des années où ça monte très haut, et tout le monde, c'est un déluge. Ben oui, quand j'ai un regard beaucoup plus étendu sur l'univers, je ne dis pas que c'est un déluge, je dis une petite inondation particulière, n'est-ce pas? Mais quand l'humanité était très restreinte, on voit très bien, le langage mythique, c'est ça. À la place d'avoir l'extension, on prend tout à partir d'un fait, et ce fait devient tout. Bien, pour un philosophe, pour un savant, Noé, c'est ça. Le déluge, c'est quelque chose de particulier, d'une reprise. Pour le croyant, c'est plus. Alors c'est pour ça que je vous disais la dernière fois, pour le croyant, les 11 premiers chapitres de la Genèse sont particulièrement importants pour voir l'histoire des ruptures, l'histoire du mal fondamental, n'est-ce pas, l'histoire des ruptures. Comment il y a eu des brisures avec les alliances avec Dieu. Comment ces alliances n'ont pas abouti. Comment l'homme, en raison de son orgueil, en raison de sa jalousie, en raison de sa méchanceté, la méchanceté généralisée, en fonction de son orgueil collectif, comment l'homme a brisé l'alliance. C'est l'homme qui a brisé l'alliance. Il l'a brisée volontairement. Et alors, à partir de là, colère de Dieu. Alors, je vous avais dit, théologie des colères de Dieu. Parce que nous sommes en présence de ce qui va toucher profondément la vulnérabilité de Dieu. Les quatre grandes vulnérabilités, les cinq, puisqu'il y en a une petite cinquième, vous savez bien, à propos de l'ivresse de Noé. Hein. Alors, à propos de l'ivresse de Noé, il y a aussi une rupture, là. Mais elle est à l'intérieur de la famille. C'est pour ça qu'elle est moins importante, elle n'a pas la même dimension. C'est à l'intérieur de la famille. Ceux qui ont respecté la paternité, ceux qui ne l'ont pas respecté. C'est quand même très beau, ça. Parce que ça montre bien la grandeur de la paternité. Ça, on va le voir. La grandeur de la paternité, c'est quelque chose de très, très, très profond. Eh bien, il y a deux faits. Il y a des fils qui ont respecté leur père et des fils qui ne l'ont pas respecté. En fonction d'une petite expérience du père, manquant un peu de prudence, étant donné qu'il est le premier qui avait planté de la vigne, un nectar particulier, n'est-ce pas ? Et puis il ne savait pas la puissance de ce nectar. Il était très, très... On pouvait lui pardonner, n'est-ce pas ? Très pardonnable, parce qu'il n'avait pas l'expérience. Première fois que vous prenez du vin, si on vous sert du vin très, très... généreux. L'autre jour, c'était quelqu'un de très vénérable qui me disait, une personne très très vénérable, une fois dans ma vie, je me suis enivré. On m'avait versé de la Volca en quantité, je croyais que c'était de l'eau. J'avais soif, j'ai bu tout. Ça a brûlé. J'ai eu la punition immédiate de mon imprudence. Bon, c'est, il y a des expériences qu'après ça ne se refait plus une seconde fois, n'est-ce pas, si on est prudent. Alors, on voit comment, de fait, il y a ces colères de Dieu par rapport à ces ruptures. Ça veut dire que Dieu n'accepte pas ces ruptures. C'est ça que ça veut dire, hein, les colères de Dieu. Ça veut dire que Dieu est blessé, mais Dieu n'accepte pas. Alors ça, c'est très très important pour la théologie, vous voyez, de voir tout de suite cela. Il y a des actes humains que nous faisons en connexion avec Dieu. On marche avec Dieu, marcher avec Dieu, parce que c'est l'expression biblique. Hein. Vivre en présence de Dieu, vivre avec Dieu, Dieu est avec vous. Et puis les colères. Quand on marche avec Dieu, on coopère avec Dieu, on fait la volonté de Dieu. Quand il y a une rupture, alors il y a la colère. La colère de Dieu, ça veut dire que Dieu n'est pas d'accord. Et que Dieu est blessé. Alors, c'est un langage symbolique, hein, de dire que Dieu est blessé. Mais c'est un langage symbolique qui est très difficile à traduire autrement. Alors, la théologie scientifique parlera des permissions de Dieu. Dieu permet que l'homme libre puisse se détourner de lui. Et alors, les colères de Dieu montrent comment Dieu va rétablir un certain ordre. Alors, vous voyez la richesse de ces 11 premiers chapitres de la Genèse. Hein. Je n'insiste pas plus, puisque nous avons vu ça longuement. Alors, nous allons entrer avec le chapitre 12 dans quelque chose de tout à fait différent, qui a été considéré jusqu'à notre époque récente, toujours comme le point de vue historique qui commence. Vous savez qu'aujourd'hui, avec la super critique, on va dire qu'Abraham, c'est encore un personnage légendaire, à la manière de Pythagore. Il y a un petit quelque chose, oui, il y a sûrement un petit quelque chose, sûrement. Mais on en a ajouté, on voit bien du reste. C'est vrai qu'il y a des traditions diverses. C'est facile à voir, il y a des répétitions. Alors, pourquoi le Saint-Esprit permet-il des répétitions dans un livre sacré ? Il aurait dû être un peu plus attentif. N'est-ce pas ? Pourquoi le Saint-Esprit permet-il ça ? Moi, je prends le texte tel que l'Église nous le donne. N'est-ce pas ? C'est le croyant, il reçoit ça. Et le texte de l'Église, c'est le texte habituel, et vous allez voir, on va voir ensemble. Alors, on va se demander de temps en temps pourquoi il y a ces répétitions. On peut se poser la question, hein. Je ne suis pas obligé, moi, de suivre exactement la coupure que font certains historiens avec leur paire de ciseaux pour reconstituer ce que le Saint-Esprit a oublié de faire. Alors, on reconstitue des différentes histoires, des courants par lesquels on a la physionomie d'Abraham. C'est très bien de faire ça historiquement. C'est une œuvre artistique. Je reconstruis un nouvel Abraham. vu différemment. Vous savez exactement comme en philosophie, on a divers visages sur Socrate. On devrait faire ça, ce serait très intéressant à faire ça. Vous avez divers visages sur Socrate. Tout le monde croit que Socrate a existé. Mais comme Socrate n'a rien écrit, Abraham non plus. Comme Socrate n'a rien écrit, vous avez diverses visions sur Socrate. Et vous avez donc des photographies différentes sur Socrate. Vous avez diverses visions sur Abraham. Et la grande différence, c'est que ce livre est un livre inspiré, la Genèse. Et de fait, ces traditions ont été bloquées, mises les unes à côté des autres, pour me donner une histoire d'Abraham, comme nous allons voir, cohérente et intéressante. Mais évidemment, je comprends très bien comment, au point de vue méthode, critique, interne, je peux prendre une paire de ciseaux et couper certains textes en disant, vous voyez, il y a des répétitions, et c'est vrai, il y en a, c'est sûr. Alors, on va essayer d'entrer dans la vocation d'Abraham. Alors, je crois qu'il faut essayer, quand on regarde les patriarches, de comprendre comment Dieu refait l'alliance. Comment Dieu établit l'alliance première qui a été brisée par la faute, chassée du paradis terrestre. La seconde alliance avec Noé qui a été brisée d'une autre manière. C'est vrai, les deux alliances sont brisées de façon totalement différente. L'alliance première est brisée par la faute personnelle d'Ève. L'alliance avec Noé est brisée par la tour de Babel, l'orgueil collectif. Des deux côtés, c'est l'orgueil. Et il y a brisure des deux alliances. Alors, il y a une reprise d'une alliance faite avec un homme. C'est toujours très important de comprendre ça. Les alliances se font avec un homme. Ce sont des fondateurs. Dieu ne fait pas une alliance avec le peuple, en premier lieu. Il fait une alliance avec un homme, parce que l'alliance est un geste d'amour. Et l'amour est toujours un lien personnel. L'amour n'est jamais un lien collectif. Jamais. C'est pour ça qu'il n'y a pas de faute collective. Dès qu'on a compris que la faute, c'est contre l'amour, et que l'amour est toujours quelque chose de personnel, vous comprenez bien que vous voyez qu'immédiatement la faute est nécessairement une rupture personnelle. Il y a des conséquences collectives. Tout à fait d'accord. Et des conséquences qui peuvent avoir une répercussion sur toute une communauté. Ça, c'est sûr. Une faute personnelle peut avoir une répercussion sur toute une communauté. Et donc avoir des répercussions collectives. Mais la faute est personnelle. Et bien, on va trouver ici le point de départ de l'alliance. Le point de départ de l'ancienne alliance. Alors, je crois qu'il est important, point de vue théologique, du devenir de la révélation, de bien comprendre comment Dieu commence à reprendre l'humanité. Il la reprend à travers le cœur des pères. Vous allez voir ça très nettement. C'est donc le point de vue de la paternité qui est repris en premier lieu. L'importance de la paternité à travers toute l'Écriture. Alors là, nous voyons avec Abraham, ça on ne peut pas nier. On va le retrouver avec Isaac, on va le retrouver avec Jacob. On va retrouver ça. Et vous verrez, trois modalités de père. Donc vous allez trouver une théologie de la paternité avec Abraham. Le point de départ, le fondement d'une théologie de la paternité. Dieu qui se lie à un homme, cet homme sera père. Et avec Abraham, nous allons découvrir tout le point de vue de la théologie de la foi. Il ne faut pas oublier. C'est dit dans l'Épître aux Hébreux. Nous y reviendrons à ce passage de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, hein, parce que c'est un petit résumé merveilleux de la théologie de la foi vue à travers les différents moments. Alors nous y reviendrons, n'est-ce pas, parce que c'est important d'essayer de le comprendre. Donc vous voyez, moi je crois qu'il y a deux choses à saisir au point de vue théologique avec la vocation d'Abraham. Il y a le choix d'un père, ce n'est pas le choix d'une mère, c'est le choix d'un père. Alors on peut dire que c'est historiquement ça s'explique, puisque oui, c'est très vrai, mais Dieu aurait pu choisir un peuple où les femmes jouent un rôle principal, si Dieu voulait reprendre d'abord par le point de vue du cœur d'une mère. Non, il a choisi un peuple où c'était les hommes qui avaient l'autorité, le père. Ça, c'est voulu par Dieu. Dieu était libre de choisir comme il le voulait. Il en a fait à partir de là son peuple. Je dis ça pour mieux comprendre la nouvelle alliance qui se fait avec Marie. Vous voyez ? Et toujours en vue de mieux comprendre l'évangile que nous regardons, l'ancienne alliance, hein. C'est l'Évangile qui nous donne la pleine lumière. Et pour mieux saisir ce qu'il y a de tout à fait unique au mystère de l'Annonciation, il faut tout le temps revenir à ces vocations de l'Ancien Testament. Yahvé dit à Abraham. Alors vous voyez, ça c'est très brutal. On ne nous dit rien sur Abraham. Vous voyez bien que Dieu n'est pas un historien. C'est un très mauvais historien. On lui donnerait une mauvaise note. Les jours, juste avant, hein, les jours de Térah furent de 205 ans, puis Térah mourut à Aram. Or, on dit, Térah prit Abraham, son fils, Lot, fils d'Aram, son petit-fils, Saraï, sa bru, femme d'Abraham, son fils, il les fait sortir d'Ur des Chaldéens, pour aller au pays de Canaan, mais arrivé à Aram, ils s'y établirent. Hein, si je prends la fin du chapitre 11, pour essayer de découvrir la descendance de Tara. Et je vois bien que Tara engendra Abraham, Nahor, Aram. Aram engendra Lot. Ceci, c'est pour raccorder. Hein. Alors, vous voyez tout de suite ce qui nous est dit ici. Selon la généalogie, j'ai l'impression que c'est Tara qui prit Abraham, il les fait sortir d'Ur des Chaldéens pour aller au pays de Canaan. Donc c'est Tara qui était génial. Il a eu un coup de génie. Il fallait sortir d'Ur des Chaldéens pour aller au pays de Canaan. Je prends le texte tel qu'il est. Et ceci, c'est selon la généalogie qui est donnée. Et une généalogie qui montre comment les uns se tiennent aux autres. Quand Tara eut vécu 70 ans, il engendra Abraham, Nahor, Aram. C'est une génération de vieux. Hein, vous voyez bien, il y a 70 ans. Et alors, l'histoire d'Abraham met en lumière Abraham, au-delà de son père. On ne parle plus du père. Et l'initiative de quitter le pays vient de Dieu. Oui, c'est très intéressant, parce que là, vous voyez bien le chevauchement. Hein. Vous voyez une tradition, hein, qui vous donne les généalogies. Et puis vous voyez, chapitre 12, une mise en lumière, hein, extraordinaire sur Abraham. Alors on peut expliquer ça de multiples manières au point de vue texte, hein, origine. Il s'agit de montrer la grandeur d'Abraham et montrer que le peuple d'Israël, les Hébreux ne descendent pas de Tara directement, mais Abraham, c'est Abraham qui est important. Oui, c'est sûr. Mais il y a aussi autre chose. Et les deux choses ne sont pas contradictoires. C'est pas contradictoire du tout. Il peut y avoir tout simplement le récit pris sociologiquement, comme on dirait aujourd'hui. Alors c'est le chapitre 11. Et le récit pris dans la foi, chapitre 12. On peut toujours tout raconter sociologiquement. Vous êtes du côté de la cause matérielle. La sociologie ne va pas plus loin. Et puis alors, le chapitre 12 donne autre chose. Ce n'est plus le conditionnement humain, c'est une inspiration divine. Oui, c'est très important de voir ces choses-là et de les saisir. Yahvé dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta parenté, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Donc, la vocation d'Abraham, c'est Dieu qui parle à Abraham. On a déjà vu la parole de Dieu adressée à un homme. Dieu parla à Noé. Donc il faut bien saisir, c'est pas le premier à qui Dieu parle. C'est le premier par rapport à l'alliance spéciale du peuple d'Israël. C'est important, vous voyez, pour la théologie de la parole de Dieu. Parce que Dieu a parlé avant à Noé. C'est évident. Alors, est-ce qu'il parlait la même langue? C'est pas dit dans l'Écriture. Il y a une parenté entre Noé et Abraham, c'est sûr. Mais c'est intéressant de voir ça. Et puis là, vous voyez, c'est là où on voit cette espèce de discontinu de la parole de Dieu. Il y a le continu sociologique, puis il y a le discontinu de la parole de Dieu. Yahvé dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Donc, la vocation d'Abraham commence par un acte d'obéissance. Abraham s'en alla selon ce que lui avait dit Yahvé. Et Lot s'en alla avec lui. Ici, on ne parle plus du père ou du grand-père. Ils sont oubliés. C'est-à-dire que Dieu regarde Abraham et Lot. Voilà ce qui est illuminé. Son et lumière. Il y a un fond sociologique. Puis il y a la lumière de Dieu sur Abraham. Voilà ce qui est important à voir. Et la lumière sur Abraham et sur Lot. Voilà, il faut regarder ce premier moment qu'on appelle la vocation d'Abraham. Cette première relation d'Abraham avec Dieu. C'est une relation de foi, nous est-il dit dans l'Épître. Aux Hébreux, c'est par la foi qu'obéissant à l'appel, Abraham partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Chapitre 11, verset 8. Et il partit sans savoir où il allait. Ça, c'est l'obéissance au Saint-Esprit. De fort interne. Vous ne pouvez pas demander d'explication. Le Saint-Esprit vous envoie toujours dans un lieu sans savoir où il allait. Oui. Petit résumé, très simple, l'Écriture par l'Écriture. Va-t'en de ton pays, de ta parenté, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Une obéissance très radicale. Puisque Dieu n'indique pas, il demande simplement de quitter. je te ferai devenir une grande nation. Voilà la promesse. Donc il y a un acte d'obéissance, un acte d'obéissance qui est très fort puisqu'il est négatif, c'est toujours beaucoup plus fort. Va-t'en, quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Là, les pères de l'Église ont toujours été très impressionnés parce que le texte de la Vulgate est très fort. Égrédéré, déconditionné-toi. Sors de tout ce qui t'est comme naturel. C'est exactement ça, mais c'est plus fort. Il y a une force extraordinaire. Sors de tout ce qui t'est comme naturel. Alors, vous voyez, c'est très très important puisque Abraham, c'est la grande figure de la foi. C'est la grande figure de la foi, Abraham. C'est pas Noé qui est la grande figure de la foi. Pour nous, Noé a eu la foi. C'est dit dans le texte aux Hébreux. Hein. Vous savez bien. Je reprends parce que c'est important. C'est par la foi que Noé, divinement averti de ceux qui ne se voyaient pas encore, construisit avec piété une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice selon la foi. Et alors, avant Noé, tous nos grands-pères dans la foi, vous savez bien, tous nos grands-pères dans la foi, Enoch, j'en ai pas parlé beaucoup d'Enoch, hein, parce que je voulais en parler au point de vue de la foi, parce que le seul intérêt, Enoch, c'est la foi. Au point de vue des 11 premiers chapitres de la Genèse, Enoch, oui, a un petit intérêt, parce qu'on ne dit pas la mort d'Enoch. C'est par la foi qu'Enoch fut transféré pour ne pas voir la mort. Et on ne le trouvait pas parce que Dieu l'avait transféré. Enoch reprend un très grand intérêt aujourd'hui à cause des soucoupes volantes. Avant son transfert, en effet, il lui est rendu témoignage qu'il avait plu à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Car celui qui s'avance vers Dieu doit croire qu'il existe et qu'il se fait le rémunérateur de ceux qui le cherchent, qui le recherchent. Alors, la foi est liée au passage de ce monde à l'autre monde. La foi est liée à plaire à Dieu. C'est ça, Enoch. C'est pour ça qu'Enoch est quelque chose de si grand au point de vue de la foi. Et avant Enoch, Abel. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un meilleur sacrifice que Caïn. Par elle que lui fut rendu le témoignage qu'il était juste, Dieu lui-même rendant témoignage à ses dons, et c'est par elle que mort, il parle encore. C'est par la foi que nous comprenons que les mondes ont été formés par une parole de Dieu, le visible provenant ainsi de ce qui ne paraît pas. C'est la foi, donc, qui nous donne le premier moment du visible et de l'invisible. Mettez Nietzsche en face. C'est intéressant de voir ça, ce chapitre 11 qui est si important. Alors, vous voyez la généalogie de notre foi. Abel, Enoch, Noé, Abraham. Alors, c'est très vrai qu'Abraham, dans la perspective de l'Épître aux Hébreux, n'est pas premier. Dans la perspective du peuple d'Israël, et dans notre perspective, en ce sens que l'Église vient après, comme l'Israël au sens fort, Abraham est le père de notre foi. Pourquoi ? Parce que la foi d'Abraham va être liée à l'alliance. Là, vous voyez, si j'essaie de comprendre, parce qu'il s'agit de comprendre la théologie de la foi avec Abraham, hein, c'est ce qu'on va faire. On va faire une théologie descriptive de la foi. Avec Abraham. Je ne peux pas faire une théologie descriptive avec Abel. Non. Abel, c'est un instant. C'est l'instant. Celui qui a opté pour l'instant. Un instant d'éternité, c'est ça, dans sa foi. Et c'est pour ça qu'on peut dire, hein, Dieu lui-même, rendant témoignage à ses dons, Et c'est par elle que mort, il parle encore. C'est comme les saints innocents. Ils parlent par leur mort. Et Abel, c'est le premier innocent. C'est le premier saint innocent. Alors, mort, il parle encore. Alors, Abel, vous voyez, c'est quelque chose de très radical, hein, au point de vue de la foi. C'est de montrer qu'il y a quelque chose qui dépasse toute la succession du temps et qui nous relie directement à l'éternité. C'est ça, Abel. Premier martyr. Un martyr religieux dans sa foi. Enoch, c'est le passage de ce monde à l'autre. Et c'est ce qui est impliqué très profondément dans la foi, le point de vue plaire à Dieu. Noé, c'est celui qui, par la foi, coopère avec Dieu. C'est le premier où il coopère. Il construit avec piété une arche pour sauver sa famille. Et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice selon la foi. Alors, Abraham, c'est le point de départ de l'alliance fondamentale de l'Ancien Testament. C'est pour ça que nous regarderons la foi dans le cœur de ce père pour comprendre le lien entre le point de vue de la paternité et la foi.